Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 8 avril 2013 avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour traiter tout d'abord l'actualité internationale qui ici va verser une larme sur la disparition de Madame Thatcher.
Bon. Oui, peut-être Renaud, le chanteur.
Oui, mais nous, non. Hein. Je vois des sourires, là, mais ils s'esquissent. Mais bon, soyons pas trop méchants, mais on la regrettera pas.
Hein. On va prendre un peu de dessert. Après, j'ai canule.
Voilà, bon, c'est une nouvelle comme une autre sur laquelle je pense pas qu'on s'étendra beaucoup. Éventuellement, on y reviendra.
C'est politique. J'ai lu que Ken Loach, le grand réalisateur de cinéma contestataire de gauche, gauchiste presque, demandait qu'on lui fasse pas d'obsèques officielles, que ce soit des obsèques privées. Puisqu'elle était partisane du tout privé, eh bien voilà, obsèques privées.
C'est la moindre des choses.
Voilà, alors revenons à des sujets un petit peu plus sérieux. Sur quoi ouvrir ce journal en actualité internationale? T'as une idée, Michel? De quoi aimerais-tu parler?
Des élections controversées au Monténégro, c'est pas accepté.
Ah ben oui, ça c'est un sujet que...
Monténégro, ce si petit pays, nouvellement sur la scène internationale, qui a même pas 7 ans d'existence. Et donc, ont eu les élections au Monténégro, et donc le premier ministre sortant, Philippe Vujanović, s'est autoproclamé le soir même, donc hier soir, donc premier ministre, avec 51,3%, et il donnait donc son opposant, Miodrag Lekic, qui regroupait le Front démocratique, donc une ribambelle hein, de partis d'opposition, 48,7%. Le souci, c'est que Lekic, lui, il se proclame aussi gagnant de ces élections. Et donc aujourd'hui, on est dans l'attente donc des résultats de la commission électorale qui a jusqu'à demain, officiellement 8 heures, donc, pour statuer sur qui est donc élu Premier ministre pour les 5 années à venir. Juste remettre un peu dans le contexte, Philippe Vujanović, c'est un peu l'acolyte, le bras droit du président Milo Djukanovic, Dieu le Père, hein, du Monténégro. Donc, depuis que le Monténégro est indépendant, c'est le président élu et réélu. Un milieu très affairiste, hein, qui a prospéré au temps de l'embargo sur l'ex-Yougoslavie, la fédération entre la Serbie et le Monténégro sur le trafic de cigarettes, hein, à travers la mer Adriatique jusqu'en Italie, et qui aujourd'hui donc par l'intermédiaire donc de ses proches, frères, sœurs, cousins, un environnement assez clanique, donc met en coupe réglée un peu le Monténégro. Alors il faut comprendre que ces résultats, ils sont avant tout donc le reflet d'une division très profonde hein, des citoyens monténégrins. Les indépendantistes monténégrins se sont appuyés donc sur Djukanovic et des tas de partis de minorités, notamment de la minorité albanaise, mais aussi la minorité slave musulmane donc dans le nord du pays, mais aussi la petite minorité croate sur la côte. Et les monténégrins qui se sentent encore, si j'ose dire, proche des Serbes, se réclament avant tout Serbes. Donc, c'est le cas de bon nombre de supporters donc, de Lekic. Aujourd'hui, on a un peu cette scission qui est très profonde au sein des citoyens monténégrins, où d'un côté, on veut accentuer les effets de cette indépendance, hein, donc de cet État-là, coûte que coûte, donc en voulant se séparer de la Serbie, pas seulement d'un point de vue politique, comme c'est le cas, mais aussi linguistique, en mettant en place la langue monténégrine, sachant que jusqu'à présent, la langue officielle parlé au Monténégro était le serbe. Djukanovic veut mettre en place donc le monténégrin. Donc on va sur des artifices, sur des nouvelles lettres qui sont mises en place, comme le ch. C'est pas très évident, le ch. Donc qui serait propre au monténégrin. Et pour pouvoir vraiment séparer officiellement d'un point de vue linguistique ces langues qui sont de fait, hein, pour les linguistes, uniques, hein, c'est la même et seule langue. Mais à travers donc ces élections, on verra quels en sont les résultats. Se joue aussi l'avenir de ce pays dans son intégration dans l'Union européenne, et à savoir que, de toute évidence, nos technocrates dans l'Union européenne ont déjà voté donc pour le parti de Djukanovic, celui effectivement qui entend mener une politique hautement libérale, ce même Djukanovic qui était un des bras droits de Milosevic, donc anciennement issu du parti communiste. En gros, bon, voilà, c'est toute une série d'apparatchiks du parti communiste qui ont senti donc le vent tourner, qui se sont tournés vers le libéralisme, qui implique aussi, bien entendu, l'ouverture à l'OTAN, donc des bases militaires, et notamment dans les Bouches de Kotor, d'une base sous-marine que l'ordre depuis pas mal d'années, la 4e flotte présente en Méditerranée. Et voilà, c'est dans ce contexte de profonde division donc au sein des citoyens monténégrins que on attend avec beaucoup de fébrilité les résultats.
Voilà. Alors, Robert, d'élection en élection, tu peux peut-être nous parler de celle de dimanche au Venezuela, non ?
Oui, en effet, dimanche 14 avril, on va voter pour élire le président qui va succéder donc à Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier. Cette élection, effectivement, est importante, non seulement pour les Vénézuéliens, mais aussi pour l'ensemble des pays du continent sud-américain, et au-delà même, on peut dire, pour tous les progressistes de la planète, et on va dire, à contrario, pour les Américains qui, sans finalement donner l'impression d'intervenir dans la campagne, souhaiterait évidemment que ce soit l'opposition qui gagne, l'opposition qui est avec un candidat, Enrique Capriles, regroupe un certain nombre d'organisations de droite qui n'ont que seul ciment commun, celui de tenter d'abattre le système socialisant mis en place par Chavez et ses camarades vénézuéliens, au travers notamment des structures extendues vers les autres pays d'Amérique latine, c'est-à-dire l'ALBA, l'Alliance bolivarienne, ainsi que le Mercosur, qui est encore une autre dimension plus branchée sur les aspects économiques et financiers. Et tout ceci, effectivement, peut être remis en cause si, par improbable, le 14 avril, une majorité des Vénézuéliens décidait de donner le pouvoir à cette droite avec Capriles. On se souvient que les multiples élections qui ont eu lieu pendant les 14 années de présence de Chavez à la tête du Venezuela ont toutes, sauf une, toutes ont été gagnées, et les plus récentes, notamment à l'automne dernier, c'était un Chavez déjà très très malade, mais qui avait finalement, on l'a compris, comme ça a été dit, et ça paraît évident, il avait la possibilité ou de continuer de se soigner à Cuba sans forcément être sûr de s'en sortir, mais il avait fait le choix de prendre le risque maximum de ne pas s'en sortir de la maladie du cancer, en faisant une campagne très importante, très dynamique pendant l'automne dernier, ce qui lui avait permis de remporter le pouvoir avec plus de 55% des voix, je crois me souvenir. Alors, est-ce que c'est bon, c'est 55-45, mais dans une population citoyenne qui vote à peu près à 80%, c'est-à-dire les électeurs, c'est entre 19 et 20 millions de Vénézuéliens. Donc, les sondages actuels donnent Maduro, Nicolas Maduro, vice-président, et on va dire un peu avait été désigné sur son quasi-lit de mort par Hugo Chavez comme devant porter les couleurs de la présidence socialiste du socialisme du 21e siècle aux prochaines élections, donc à celle qui a lieu maintenant. La campagne était courte, 15 jours. Naturellement, c'est lié à la situation exceptionnelle dans laquelle s'est retrouvé le Venezuela. Campagne courte où effectivement Chavez est bien vivant encore dans ce pays, notamment dans le peuple, et surtout le peuple qui a le plus bénéficié du système progressiste, c'est-à-dire le peuple pauvre qui a pu aller à l'école, qui peut se soigner, qui a quelques argent pour vivre mieux que ce ne l'était au temps de la droite ou du centre au pouvoir au Venezuela. On va donner simplement quelques éléments sur cette campagne donc de Maduro dans des conditions très exceptionnel, on l'a dit. J'ai retenu une déclaration qu'il a faite, et en même temps on va comprendre ce qu'est le Venezuela aujourd'hui, et y compris comment il a peut-être évolué vers par exemple ce qui est quelque chose de très présent en Amérique latine, y compris chez les pauvres, c'est le sentiment religieux, mais pas du tout au sens où on l'entend en Europe, un sentiment religieux qui est plus lié au passé, notamment par exemple des pratiques indiennes en Amérique. Ainsi, il y a cette déclaration que certains trouveront surprenante. Bon, Maduro dit il y a deux modèles et deux horizons, le modèle du socialisme démocratique ou celui des privatisations. Bon, là, c'est clair. Celui de la révolution bolivarienne, chaviste, ou celui de Washington. Là encore, c'est clair, on rappelle bien effectivement l'antagonisme. Et il ajoute, il y a aussi un horizon capitaliste, d'accord, et un horizon chrétien et socialiste. C'est vous qui déciderez. Alors c'est cette présence de l'horizon chrétien et socialiste. On peut d'ailleurs faire rappeler cette gauche chrétienne à travers la théologie de la libération qui a été détruite par les papes et notamment par les envoyés spéciaux sur cette question de Jean-Paul II.
Et par Bergoglio aussi.
On sait également que François, le nouveau pape, est également a participé à cette destruction de la théologie de la libération en Amérique latine. Donc, elle réapparaît, c'est pas elle, mais en fait, sous certaines formes, c'est quand même un peu elle. Et je termine en rappelant que finalement, le Parti socialiste unifié vénézuélien, il est effectivement la tête la locomotive de ce train qui regroupe un grand pôle patriotique de 11 organisations politiques. Donc on peut pas dire que c'est pas, il n'y avait pas une mainmise totale d'un grand parti chaviste sur l'ensemble du monde politique. Et puis on rappellera aussi que la structuration du socialisme vénézuélien, il est bien réel à travers ce qu'ils appellent les missions ou les programmes sociaux et surtout les conseils communaux qui sont des organisations de pouvoir populaire dans les quartiers et tout ça, ça remonte jusqu'aux synthèses qui peuvent être faites au niveau de la direction du Venezuela. Les deux points effectivement qui sont dans la campagne au-delà de ce qu'on vient de dire et que peut-être sur lesquels la droite fait elle-même met la pression, c'est le pétrole naturellement. Et on a compris que la droite elle voudrait faire rentrer le pétrole dans les normes internationales du marché pétrolier et donc supprimer toute cette recomposition de la distribution du pétrole, notamment vers les pauvres, y compris les pauvres, ou vers d'autres pays comme Cuba, comme l'Équateur et d'autres, etc. Donc la droite veut casser ça, le réduire. Et puis la droite aussi fait sa campagne sur la sécurité, on va dire qu'il y a... Caracas, c'est beaucoup le Venezuela connaît, c'est pas nouveau, et le chavisme n'y est pour rien. Certes, il a pas pu le juguler, mais est un des pays où les meurtres sont les plus nombreux dans tout ce continent amérindien. La droite utilise ce slogan, mais n'a aucun moyen de le juguler. Ça peut effectivement tromper un peu. On a l'impression que ça ne sera pas le cas.
Voilà. Bon sujet sur l'Amérique latine. On va peut-être revenir, oui, Michel.
Juste rajouter ce que tu disais effectivement sur. Déjà, ce chiffre, hein, 80% de participation aux élections, c'est énorme. Si on s'en inspirait, peut-être, effectivement, nous aussi, on aurait une gauche pérenne hein, au pouvoir. À savoir, c'est l'implication donc des plus humbles, des plus pauvres, qui ont pris conscience qu'en votant, donc, ils pouvaient changer leur sort. Et ça s'est concrétisé par les missiones. Et sur ce que tu disais sur les missiones, effectivement, c'est l'esprit aussi chrétien. Les missiones, ce sont ces missions jésuites qui ont été instaurés donc pendant la colonisation espagnole au XVIe siècle, XVIIe siècle, et qui ont vu donc aujourd'hui dans les espaces que sont l'Argentine, le Paraguay, Uruguay, prospecter donc ces missions où on a évangélisé bien sûr la population indienne, mais aussi on les a appris à vivre en communauté et dans l'égalité. Et bien sûr, ça a déplu à la couronne ce type d'expérience, et ils y ont mis fin par la force, puisqu'ils ont tué et dispersé et brûlé donc tous ces missions. Et c'est un peu l'esprit de Chavez, donc que réimpliquer la population. Alors bien sûr, on parlait de manne pétrolière, ça a servi, mais impliquer directement la population à l'amélioration de son sort, que ce soit pour les constructions de maisons, que ce soit pour la lutte contre l'analphabétisme. Que ce soit pour la construction, par exemple, de réseaux d'eau, quoi. Hein, donc, directement, dans chaque commune, la population soit impliquée par les problèmes qui soient concrets.
Voilà, je vous propose de revenir un peu vers les pays arabes. On a un certain nombre d'informations aujourd'hui. Bangladesh, une menace de mort sur des blogueurs. Syrie, une douzaine de morts, comme tous les jours, on peut dire. L'Égypte aussi, des affrontements entre coptes et musulmans. Par quoi on commence hein? Peut-être le Bangladesh, tiens, on n'en parle pas souvent et c'est un peu curieux cette affaire d'islamistes qui mobilisent, semble-t-il, des centaines de milliers de personnes, alors peut-être un peu au forceps, mais n'empêche, on les a été les chercher, pour manifester, pour demander la mort de blogueurs dits athées au titre du blasphème contre la religion. Alors il faut dire que les blogueurs en question n'avaient pas été tellement plus tendres avec les islamistes qu'ils... accusaient sans doute à juste titre de violence dans le passé et qui réclamaient eux aussi la mort pour les responsables de ces violences. Bref, le pouvoir au Bangladesh est un peu encombré par ces histoires et qu'il ne sait pas trop comment gérer pour réfréner cette montée de mobilisation islamiste contre, c'est intéressant de le voir, contre finalement des gens qui manifestent sur Internet.
C'est cette nouvelle technologie Internet qui sort en dehors du domaine de sur lequel les islamistes n'ont pas prise. C'est ça qui pose question, mais rien d'étonnant que des centaines de milliers d'islamistes sortent dans la rue. Voilà, le Bangladesh, un pays de très grande pauvreté, un pays qui est aussi l'ancien Pakistan oriental, donc le pays des purs. Hein, par essence, c'était un État qui s'est dissocié des Indes parce que musulman. Donc il faut asseoir son caractère musulman. Donc les minorités autres que musulmanes sont pas particulièrement bien vues. Alors l'athéisme, encore moins.
Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a déjà un de ces blogueurs qui a été assassiné il y a quelque temps. Donc un très grand affrontement violent entre les deux. L'Égypte aussi, des violences, elles ne sont pas nouvelles, c'est coptes et musulmans au Caire, ça reprend, 4 morts samedi, 1 mort dimanche encore, autour d'affrontements entre ces deux communautés qui, on le sent, ont de plus en plus de mal à vivre ensemble et dont on présage difficilement de l'avenir de la cohabitation dans le pays, quoi.
Oui, non, on évoque d'ailleurs peut-être moins le caractère social des manifestations en Égypte. Or, justement, ces jours-ci, c'était un anniversaire tragique d'une grève du 6 avril 2008, donc voilà 5 ans, dans le textile, et le textile c'était à Mahalla, sur la vallée du Nil. Et puis cette grève avait été violemment réprimée, et aujourd'hui donc il y avait un mouvement, alors d'accord, Morsi peut dire je suis pas responsable justement, mais en même temps les manifestants, les travailleurs et leurs syndicats sur place, mais aussi dans plusieurs villes d'Égypte, se rappelaient au bon souvenir de Morsi que pour l'instant rien n'était fait sur le plan social.
Michel, tu voulais...
Non, mais
tout à fait. Sur... qu'est-ce que j'étais parti aussi sur... oui, la Syrie, bon, pas grand-chose à dire, hein, c'est statu quo avec toujours une demande des Occidentaux, pour certains, de pouvoir livrer des armes, et puis un gouvernement qui réclame, lui, que d'un côté comme de l'autre, soit... jugé, enfin interdit les livraisons d'armes déjà, enfin une situation un petit peu compliquée. Évidemment les Russes et les Iraniens refusent cette disposition.
Tout à côté de la Syrie, il y a naturellement le Liban. Le Liban qui effectivement, bon, on connaît la longue histoire effectivement de ces deux pays. Et le Liban avait vu son président du conseil qui est derrière le président de la République, mais c'est le président du conseil qui a les pouvoirs au Liban, démissionner parce que trop proche des Syriens et notamment trop proche des gens de Bachar el-Assad. Donc elle avait démissionné, non pas, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher, mais simplement, il avait tendance à vouloir aligner le Liban, plutôt sortir d'une position de neutralité, et puis plutôt s'aligner sur le pouvoir officiel en Syrie. un nouveau ministre premier du nom, un premier président du Conseil a été donc validé par l'ensemble des partis. Il s'appelle Tamam Salam. Il est sunnite, alors sunnite modéré. Bon, c'est des expressions qu'on emploie beaucoup, modéré, pas modéré, radical. Bon, modéré, allons-y pour modéré. Alors, il est sunnite, il appartient au camp de ceux qui étaient alors aujourd'hui dans l'opposition, notamment le clan Hariri, fils Hariri, suite à l'assassinat de son père. Donc c'est ce camp-là. Mais il semble que finalement le Hezbollah chiite, donc, a donné son accord pour la désignation de Tamam Salam, ainsi que les Druzes. C'est important, Jumblatt, le groupe Jumblatt, s'il apporte son soutien à cette formule-là, comme il soutenait d'ailleurs avant, il a plus ou moins soutenu le précédent gouvernement. Les Druzes et Jumblatt s'étaient complètement écartés des courants d'ailleurs qui n'avaient souvent que rien à voir avec la démocratie, des courants chrétiens, les phalangistes, qui ont longtemps aussi régné dans le passé sur le Liban. Voilà, donc peut-être une situation de neutralité. On craignait beaucoup que le Liban soit entraîné dans ce qui se passe à sa frontière. Peut-être que ça n'aura peut-être pas lieu.
Oui. Ou peut-être aussi.
Peut-être.
Voilà.
Oui.
Tout le problème du Liban, enfin, il a été résumé là, c'est-à-dire que on a aujourd'hui Tamam Salam qui a été intronisé, mais comme tous les premiers ministres, ils sont sunnites. La constitution a ainsi fait, depuis les accords de Taif, que le premier ministre est sunnite, le président est issu des rangs des chrétiens et au parlement siège en tant que président du parlement un chiite. Donc c'est cet équilibre fragile qu'on fait attention à ne pas froisser les uns les autres. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, Salam est issu d'une longue famille parce que son père était déjà premier ministre. C'est quasiment féodal hein, au Liban, hein, selon qu'on soit à Jumblatt. Tu évoquais Jumblatt, mais c'est pareil. c'est Dieu le Père pour les Druzes, Jumblatt. Donc il n'y a pas d'autre avis qui puisse émaner de la partie druze s'il n'a pas été adoubé par Walid Jumblatt. Et donc Walid Jumblatt, on l'a vu hein, dans le passé, il change de camp. Il a été pro-syrien, maintenant il est anti-syrien. Il a été pro-chrétien, contre les chrétiens. Enfin bref, c'est un calcul très très fin hein, en voyant quels sont ses intérêts. Et donc maintenant, à charge de Salam de former son gouvernement, justement en faisant attention de ne pas heurter les susceptibilités et les intérêts des uns des autres. Tout ça dans un contexte où on sait que massivement les sunnites se sont engagés aux côtés des sunnites syriens, donc ont passé la frontière et combattent aujourd'hui, et de même pour les membres du Hezbollah, donc pour les chiites qui soutiennent le régime alaouite de Bachar al-Assad. Donc jusqu'à quand effectivement va-t-on pouvoir maintenir ce semblant de neutralité officielle vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, tout en sachant qu'on est fortement impliqué dans ce qui se passe?
Voilà, écoutez, on va bientôt arriver à la pause musicale. Encore un sujet auquel vous tenez, on en avait d'autres qu'on n'évoquera pas parce qu'on n'a pas le temps.
Garder un œil vigilant sur le Japon où à Fukushima, chaque jour apporte sa mauvaise nouvelle. Tantôt c'est un rat qui pose des problèmes au circuit électrique et ce qui produit des surchauffes. Tantôt, c'est tout aussi dramatique, c'est les fuites d'eau contaminée qui s'infiltrent dans le sol pour les dégâts que l'on présuppose à l'avenir.
Ça fuit dans les couches culottes. Un réservoir sur les 7. Alors, ce qu'ils appellent des réservoirs, c'est des grandes bâches, soi-disant étanches, qu'on a étendues dans des creux qui ont été fabriqués à la pelleteuse, quoi. Et bon, ben, ça résiste à toute épreuve, c'est bien connu, mais semble-t-il, il y en a déjà un qui est percé. Et par là, 120 tonnes d'eau contaminée auraient allègrement rejoint l'océan, bien sûr, et ses poissons, quoi. Donc Fukushima, on n'en parle pas beaucoup, ça ne fait pas le scoop, mais la catastrophe, puisqu'il s'agit bien de ça, continue au quotidien. Allez, petite pause musicale avant de rouvrir à la rubrique nationale. Eh bien, on va la faire avec, avec Eric Simonet, qui sera mercredi de cette semaine à 20h au Carré 30. Il va nous parler de ses vrais potes.
Les vrais potes, ils ont des histoires pas très faciles à raconter, sauf le soir quand il se fait tard et que les yeux peuvent écouter. Les vrais potes, ils ont des dimanches, un mercredi après-midi, le temps de retrousser ses manches pour t'inventer un paradis. Les vrais potes, ils ont la musique cachée au fond de leur silence. Ils ont une autre idée du fric que l'on devine en leur absence. Les terres froides, les pays chauds qui vivent ensemble en harmonie, et pas souvent le cœur manchot pour les oiseaux tombés du nid. Les vrais potes, ils tiennent la distance, on se rencontre et les montagnes, ils croiront toujours à ta chance, qu'importe si tu perds ou tu gagnes. Les vrais potes, ils prennent le hasard comme un allié de circonstance, même si tu nages en plein brouillard, ils ont toujours le cœur qui danse. Les vrais potes, ils sont transparents, un peu comme le feu sous la glace, ils mélangent petits et grands, font pas les choses à ta place. Les vrais potes, ils ont des sourires à faire dégeler la banquise, comme une porte qui vient de s'ouvrir, comme une leçon bien apprise. Les vrais potes, c'est aussi des femmes qui savent ouvrir grand leur corsage, qui te sourient au cœur des drames avec leur présence pour message. Les vrais potes, c'est aussi les bêtes qui nous aiment par les temps de chiens, quand tout se mélange dans la tête et qu'on se perd sur le chemin. Les vrais potes, on les croise un jour sans le savoir sur le moment, sans les jamais, sans les toujours, que croient brandir les innocents. Les vrais potes, ils sont pas nombreux, mais toujours là, à la rescousse. Quand la mort ouvre ses grands yeux, on les compte sur les doigts des pouces. Les vrais potes, ils ont du soleil.
Les copains d'abord, version Eric Simonet, c'était les vrais potes. Vous écoutez Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 8 avril 2013. Michel Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Je te donne la parole, Robert, tu nous parles un petit peu de l'actualité sociale.
Pour faire le point sur le débat qui a commencé à l'Assemblée nationale autour de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, A-N-I, ce moment historique, c'est Hollande qui a employé ce mot. Il a dit que c'était historique, cet accord intervenu le 11 janvier entre le MEDEF patron et les syndicats CFDT, CFTC, CGC, rejoint depuis peu, il n'était pas là pour la signature, mais rejoint depuis peu par l'UNSA. Donc cet accord fait débat. Le pouvoir politique souhaiterait qu'il soit traduit dans la loi sans modification, sans importante modification, mais même le MEDEF avait déjà récusé toute modification, laissant entendre pratiquement que si la loi modifiait l'accord, le MEDEF ne se sentirait plus concerné par sa précédente signature, donc chantage qui de toute façon ne gênait pas Hollande ni Ayrault, qui sont de plein pied avec cet accord, mais par contre qui gêne une petite minorité de gauche du Parti Socialiste, je veux dire, d'une part, donc à l'intérieur même de la majorité, et naturellement qui un accord qui est dénoncé par le Front de Gauche et au-delà contesté, partiellement contesté par les Verts qui veulent par les amendements le changer, mais par contre qui est globalement approuvé par la droite. Si on résume hein, les grandes lignes de cet accord, Par exemple, des gens qui, comme Gérard Filoche, qui justement appartient un peu, qui appartient au Parti Socialiste et qui est membre du Bureau National du Parti Socialiste et qui est à fond contre cet accord dit de flexibilité, mais en fait, accord de sécurité, de sécurisation du travail, mais en fait, où sa véritable ambition, et c'est le rapport de force qu'il a voulu ainsi, c'est le triomphe de la flexibilité au profit, effectivement, des thèses du patronat. Donc, rappel de quelques lignes, cet accord instaure la mobilité forcée sous peine de licenciement. Il impose aux salariés des normes moins bonnes que le Code du travail, donc remise en cause du Code du travail. Il crée un faux CDI, contrat à durée indéterminée, légalisant ainsi la précarité et la généralisation du temps partiel forcé. Il vise à empêcher les salariés à se défendre et permet ainsi aux patrons de licencier plus facilement et d'imposer des baisses de salaire et augmentation du temps de travail en fonction des aléas du cahier de commandes. Face à ça, détricotage du Code du travail, les avantages acquis sont maigres. On a beaucoup joué sur le fait que il y aurait l'instauration d'une complémentaire santé pour tous les salariés du privé qui n'ont pas actuellement, ils ont la sécurité sociale, ils n'ont pas la complémentaire, mais ça ne s'appliquerait que dans 5 ans. On oublie ça, effectivement, on oublie de rappeler que c'est que dans 5 ans pour ceux qui défendent cet accord, et qui ne concernerait que les salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Et donc c'est plutôt au profit des petites PME, et ne serait mise en place qu'en cas d'accord entre toutes les entreprises d'une même branche professionnelle, ce qui naturellement sera très difficile à obtenir, un accord entre toutes les entreprises d'une même branche. Autrement dit, ça renvoie de telles possibilités au calendrier grec. Et pire, j'ai le texte, hein, le texte de Gérard Filoche qui résume assez bien. Pire, au-delà du fait qu'elle amputera le revenu des salariés qui devront payer 50% de cette complémentaire, cette mesure est en réalité le cheval de Troie des assureurs, des mutuelles contre la sécurité sociale. Et c'est bien ce qui est le plus dangereux, c'est que finalement, c'est effectivement les assureurs, les mutuelles, donc tout le privé, dont on peut dire que les mutuelles ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est-à-dire les mutuelles ne sont plus une garantie mutualisante pour les travailleurs. Les mutuelles sont devenues des sociétés commerciales qui font des affaires, et d'ailleurs on les voit mêlées, on en parlera peut-être d'ailleurs, on les voit souvent mêlées maintenant, y compris aux scandales financiers qui ont pu exister. Donc à elles le pouvoir, ainsi qu'aux assureurs, et donc au démantèlement de la sécurité sociale. Et puis alors, la taxation des contrats courts, c'est ce que la CFDT avait exigé avant de signer. Alors cette mesure de surcotisation des contrats à durée déterminée, d'abord, elle ne cible que 30% des contrats, bon, déjà 1 sur 3. Et elle est facilement contournable parce qu'elle ne prend pas en compte les contrats d'intérim. Or, on sait qu'actuellement, l'intérim a pris une place importante dans tout le secteur de la précarité. Elle pouvait apparaître positive, cette mesure, mais en fait, on vient de comprendre pourquoi elle ne l'est pas. Et elle permet simplement, au patronat d'engranger quelques dizaines de millions d'euros en supplémentaires. Et il y a cette citation de Gérard Filoche que je ne résiste pas à la lire. « Lisez, lisez, lisez Lani, le diable est dans les détails, un texte indigent, incohérent, dangereux de A à Z, à combattre à 100%, il n'y a rien. » Rien de bon dedans. Annie, c'est un crime contre le droit du travail. Face à ça, il y a des mobilisations, notamment demain, 9 avril, dans toute la France, les syndicats qui conteste le bien fondé de cet accord, qui n'y voit que de la régression, appelle partout à des manifestations, à des actions, à des grèves. Le débat à l'Assemblée va se poursuivre encore quelques jours. Probablement qu'une grande majorité des articles de cet acte, tel qu'il est transcrit par la loi, vont être adoptés, sans beaucoup de changements, hélas. Et puis après, il y aura une pause, entre guillemets, puisque le Sénat s'en emparera le 17 avril. Entre-temps, les mobilisations seront un peu partout, très nombreuses, pour dénoncer la régression sociale que représente l'ANI.
Voilà, beau tour d'horizon sur un texte qui, on peut hélas le regretter et le pressentir, va sûrement finir par être voté quand même par les socialistes. Les socialistes qui sont dans la panade, c'est bien connu. Moscovici, avec ses 0% de croissance en 2013 et ses 1,2% en 2014, se désolidarise de Cahuzac. Il n'est pas sûr que ça suffise à redorer son image pour qu'il ne soit pas un ministre susceptible d'être démissionné. Un deuxième paraît sur la sellette, peut-être à cause de calomnie, c'est Fabius. On ne sait pas trop, mais il est aussi dans le viseur. Et face à ces questions de personnes, on notera surtout que les gens qui calculent un peu nous disent qu'il y a 500 milliards d'euros qui échappe au fisc. Alors il y a peut-être effectivement 15 millions Cahuzac au lieu de 600 000, mais le vrai problème, c'est pas celui-là, c'est celui de toutes les grosses boîtes qui externalisent comme ça à l'impôt et dans ces paradis fiscaux des sommes astronomiques. C'est quelques 40 milliards par an qui, semble-t-il, échappe à l'impôt par ces... On peut même pas parler de malversation, puisqu'il y a pratiquement une législation qui permet et qui autorise les transferts dans des paradis fiscaux. Mais ces 40 milliards, eh bien, pour boucler le budget Hollande, plutôt que de les piquer au SMICAR, aux RMistes, aux retraités, ils sont bien là. On a toujours dit, l'argent existe, il suffit d'aller le prendre là où il est. Mais évidemment, à partir du moment où les pouvoirs autorisent et encouragent les paradis fiscaux, que ce soit en Europe, comme le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, ou beaucoup plus loin dans des îles ou des petites zones géographiques qui n'ont d'existence que de boîtes à lettres, c'est un système qui fonctionne. Que Sarkozy a dit les paradis fiscaux, c'est fini. Hollande a dit la finance, c'est l'ennemi. Et en pratique, ils ne font rien du tout. Alors quand ils ont un peu le nez dans le caca, comme l'affaire de Cahuzac, ils repartent dans des grandes déclarations, mais à l'heure qu'il est, depuis 3 semaines, des décisions, aucune.
Hérault propose de faire une loi pour la moralisation de la société. Alors, c'est un fourre-tout, tellement fourre-tout que finalement on comprend que ça ne débouchera sur rien. Parce que il mélange par exemple la fraude à travers par exemple ses comptes à l'étranger et puis les paradis fiscaux. Il dit qu'il va s'attaquer à la fraude et aux paradis fiscaux. Comme si c'était du même niveau. Or, on a très bien compris que finalement, s'attaquer aux paradis fiscaux, ça demandait une autre stratégie, française certes, mais elle peut être européenne, elle peut être mondiale, elle peut être que celle de traquer la fraude, qui est un élément de fonctionnement des paradis fiscaux, mais qui n'en est qu'un élément, ce que tu viens de rappeler. Alors pour dénoncer eh bien ce que certains appellent la nausée que produit tout ceci, petite parenthèse d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que on peut penser que la France, les fraudeurs français comme les multinationales françaises ne sont pas les seuls à s'agiter dans ce bocal. C'est tous les pays qui sont concernés, notamment les pays les plus puissants, les pays dominants d'Europe occidentale, d'Asie et puis au-delà. Donc c'est tout le monde qui est concerné. C'est pas les Français sont pas plus pourris que les autres. Ça, c'est pour un peu contre, enfin, pour essayer de dénoncer la démagogie du Front National qui, lui, ne voit que cet aspect-là, la pourriture des Français. Il ne voit pas que cette pourriture, elle est à l'échelon international. Alors, ce que propose le Front de Gauche, et au-delà, puisque, par exemple, Eva Joly et certains Verts vont y participer, c'est de donner un grand coup de balai. Alors, le coup de balai, c'est pas Eva qui va tenir le balai, mais simplement, c'est l'image. Et surtout, c'est lancer à nouveau, ce qui était d'ailleurs dans le programme du Front de Gauche lors de l'élection présidentielle, pour une sixième république. Et pour faire une sixième république, il faut faire une constituante, mais c'est pas l'Assemblée qui va d'un seul coup, telle qu'elle est, se conformer, se formater en assemblée constituante. La démarche d'une assemblée constituante, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est autre chose. Toujours est-il qu'il y aura de la part du Front de Gauche et au-delà, un grand mouvement qui va se développer et qui va notamment, mais c'est pas un aboutissement, qui va se manifester par un rassemblement national, peut-être international à Paris, le 5 mai. 5 mai, donc on aura le temps d'en reparler.
Voilà, autres sujets nationaux, qu'est-ce qu'on peut aborder? Ah ben la visite à Paris, là nous avons un ami africain, Sassou Nguesso, qui est venu rendre visite à Hollande pour des raisons très nobles en fait, peut-être surtout pour essayer de calmer la justice française qui s'intéresse de près à ces acquisitions, il dirait de 30 acquisitions immobilières dans des conditions frauduleuses, c'est-à-dire avec l'argent du pays et pas le sien. Et Sassou Nguesso est venu rappeler qu'il entendait bien que les juges français ne s'intéressent pas à ça dans son pays où Total représente avec son pétrole 70% du budget de l'État, quoi. Alors qu'est-ce que Hollande a bien pu lui dire pour le rassurer? On peut se poser la question.
Oui. Juste souligner l'hypocrisie donc de notre président de la République qui reçoit Sassou Nguesso, mais il fait comprendre effectivement qu'il a quelques remontrances hein, et ne va pas descendre les quelques marches pour l'accueillir. C'est de la très grande symbolique. Enfin, à dire vrai, la France-Afrique, c'est aussi Sassou Nguesso, c'est le système, c'est le pétrole, c'est l'implication de nos multinationales sur place, et c'est nos multinationales, celles qui sont CAC 40, qui dictent la politique de notre président. À choisir, il aurait préféré ne pas l'accueillir, mais il ne peut pas faire sans. Et donc, voilà, contraint et forcé, il n'a pas descendu quelques marches, mais il l'a quand même accueilli.
Pour défendre les intérêts de Total, qui d'ailleurs place tous ses bénéfices dans les paradis fiscaux et ne paye pas ses impôts en France. Fabuleux, n'est-ce pas?
Hollande va recevoir, d'ailleurs je crois que c'est peut-être aujourd'hui ou demain, un autre de ces potentats africains, puisque c'est Ouattara qui est de passage à Paris. Il vient souvent, ils doivent bien s'apprécier tous les deux. Ouattara qui est effectivement l'homme qui va mettre le capitalisme moderne en route en Côte d'Ivoire après que le petit mauvais élève Gbagbo ait été chassé et enfermé du côté de La Haye par la Cour de pénale internationale qui voudrait bien qu'on le juge afin qu'il puisse clamer son innocence et puis dire ce qu'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire sous la présidence de Ouattara.
Voilà, on dira quand même un mot de l'Alsace qui finalement ne sera pas une seule collectivité. Un projet porté par un député UMP, Richer. Tout le monde pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste.
Résultat, qui est président de région aussi.
Président de région, oui. 37% oui. De votants. et puis 56% contre les Alsaciens de Haut-Rhin, de Colmar, Mulhouse, n'ont pas voulu marcher dans la combine des Alsaciens de Strasbourg.
Oui.
Et finalement, ben, ça a surpris un peu tout le monde. Alors, était contre le Front de Gauche, le FN, Aignan, Dupont-Aignan. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer? Est-ce que c'est le désintérêt des électeurs? Est-ce que les Alsaciens ne sont pas prêts à se modifier, à perdre autant d'élus dans la nouvelle structure, parce que c'était un peu le but, paraît-il. Puis je pense que ceux du Sud, là, ont toujours eu peur d'être colonisés par ceux du Nord, et que l'unité alsacienne n'est peut-être pas si rutilante qu'on veut nous la faire paraître. Et c'est peut-être pas plus mal, ça montre aussi que les gens sont attachés à leur département et qu'ils n'ont pas envie d'être mangés par une plus grosse structure. C'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de régions françaises et européennes. Voilà, il est presque 8 heures. On va peut-être donner quelques infos culturelles. Tu avais quelque chose, Michel ?
Non, juste à rappeler que la manifestation contre la nuit à Lyon, c'est demain à 10h30, départ de la manufacture des tabacs. Demain, 10h30.
Voilà, je voulais vous dire quoi donc. Ben, ce samedi 13, place Satonnet, de 14h à 22h, le PCF fait sa fête. Et en même temps, ce samedi 13, je pense que ça n'a rien à voir. Et si, il y a aussi une journée de sensibilisation aux différences et aux handicaps. Et ça se tiendra place de la Croix-Rousse, de 13h30, avec Expo Musique Atelier. Et puis à tout bout de champ, Oscar et Victor vendredi, Barweco jeudi, Eric Simonet, je vous l'ai dit, c'est le mercredi 10. Voilà, ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez l'écouter sur Internet. Et puis on se quitte en écoutant la musique et les paroles et musique de Georges Brassens, une chanson qu'il n'a jamais chantée, mais qu'il a sans doute écrite pour François Hollande.
À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Complètement secoué, les comprendre. Mais dans ses calculs, il se trompe. Et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'est rien, il y a pire. Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin. Mais ce n'est qu'un vieux broquin. Mon Dieu, quel malheur! Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur!